Oui, donc je suis Antoine Magnier, je suis directeur des Rencontres Audiovisuelles, qui est l'association qui organise le Videomapping Festival.
Donc les Rencontres Audiovisuelles, c'est une association qui a une histoire déjà très longue. Et le Videomapping, c'est intervenu, j'allais dire, à quel moment ?
Alors l'association a été créée en 1998 pour s'intéresser à ce qu'on appelle les nouvelles images, donc à l'époque la création numérique. Et donc on a croisé plein de formes de création numérique, donc notamment au début la création dans l'écran, du film d'animation, du film expérimental. Et on est vite sorti de l'écran pour s'intéresser à d'autres formes, du vidging, des performances. Et on a croisé le mapping il y a une bonne quinzaine d'années et on s'est emparé plus spécifiquement de ce support.
Donc le vidéomapping, c'est quelque chose qui existe à l'international ?
Oui, le mapping aujourd'hui, il est développé un peu partout dans le monde. Bon, il y a des territoires où il est plus présent que d'autres. C'est une forme qui se développe depuis une bonne vingtaine, voire une trentaine d'années.
Donc il y a de la création, et c'est cette création aussi que vous présentez dans le cadre de ce festival qui va se dérouler jusqu'en octobre.
Oui, le mapping, c'est une forme qui est utilisée pour plein de choses, de la muséographie, du marketing, etc., l'événementiel, mais il y a évidemment toute une partie créative. Donc il y a des artistes mapping qui proposent des œuvres grâce à ce médium. Et donc on a un festival qui est dédié à la création mapping, donc qui démarre à Lille en avril et se termine à Amiens en octobre.
Donc c'est tout un programme depuis plusieurs années. À chaque fois, évidemment, vous allez dans des villes un peu différentes pour ce qui est de la région, puisque vous couvrez les Hauts-de-France maintenant.
C'est un festival régional, donc Lille avril en ouverture, Amiens en octobre en clôture, et puis entre deux on se balade un petit peu partout dans la région, avec des villes qui sont récurrentes d'année en année, d'autres qui vont être là une édition et pas l'autre. Donc c'est vraiment chaque territoire qui souhaite nous accueillir, on va construire avec lui une proposition en fonction de son patrimoine et des sujets qu'on peut traiter avec les artistes.
Donc j'imagine qu'en amont, il y a un grand travail de repérage des bâtiments qui peuvent porter, supporter vos lumières.
Alors, en effet, le mapping est vraiment c'est la rencontre entre une création numérique virtuelle et la réalité d'un support. Donc le support conditionne beaucoup de choses. Donc il y a un choix des bâtiments qui va se faire pour des questions à la fois techniques, logistiques, budgétaires, et puis ce qu'il apporte en termes créatifs. Donc la qualité de l'architecture et ce qu'il véhicule en termes de sens, d'histoire également.
Donc ça doit être difficile de projeter des choses qui ont été conçues dans un lieu pour les présenter ailleurs.
En mapping, on est quasiment que sur des créations originales qui sont pensées pour le support. Parce qu'en effet, si on produit quelque chose pour la cathédrale de Senlis et qu'on veut le diffuser sur la cathédrale d'Amiens, ça ne donnera rien parce que l'image est vraiment construite pour l'architecture. Donc création spécifique pour le volume. Et donc du coup, ça nous amène à pouvoir avoir des sujets et des propos qui sont vraiment aussi localisés.
Est-ce que vous avez des contraintes particulières pour réaliser vos projections ?
Alors en mapping, on a des contraintes techniques assez fortes, mais aussi de logistique, de sécurité. Là où on place les vidéoprojecteurs, par exemple, comment on gère les flux de public, parce qu'on est sur des événements qui peuvent rassembler beaucoup de monde. Donc c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de contraintes à mettre en face à face pour réaliser un projet. Et souvent, on travaille main dans la main avec la ville d'accueil, parce qu'on est sur l'espace public aussi. Avec éventuellement le propriétaire du bâtiment, si ce n'est pas la collectivité. Et donc on est sur un projet qui allie à la fois des questions artistiques assez complexes, mais aussi de technologie, réglementaire, sécurité, logistique, enfin, pas mal de paramètres.
Il y a la technique, il y a l'éclairage, mais il y a aussi peut-être surtout les idées que vous arrivez à exprimer au travers des présentations que vous faites.
Une fois qu'on fait un mapping, il y a en effet le choix du support qui est important, mais il y a quel artiste et qu'est-ce qu'on dit. Donc, on a autour de nous tout un écosystème régional mais aussi international d'artistes. Donc on a plein de sensibilités différentes. Donc on va aller chercher l'artiste avec qui on a envie de travailler par rapport à une thématique, une architecture. Et on peut avoir soit une carte blanche complète à l'artiste, soit poser une thématique ou quelques éléments qui vont encadrer la réalisation. Et puis là, c'est la magie, l'imaginaire, l'univers visuel de l'artiste qui opère.
Voilà, donc le Video Mapping Festival, ça s'étend sur plusieurs mois.
Oui, donc le Video Mapping Festival démarre le 10 avril à Lille cette année, se clôturera le 17 octobre à Amiens, et puis on a 15 dates en région entre deux.
Donc c'est un grand dispositif avec beaucoup de communes qui me semblent de plus en plus intéressées.
On a une quinzaine de communes qui nous accueillent cette année. Ça varie selon les années, mais oui, il y a un intérêt des collectivités. C'est un événement qui est assez fédérateur, qui met en avant le patrimoine de la ville, tout en ayant une proposition culturelle qui parle à tous. On a aussi bien du grand public qui vient pour le côté gratuit, spectaculaire dans l'espace public, qu'un public plus pointu qui vient pour ses formes d'écriture innovantes. Donc c'est vrai qu'il y a un beau succès public et des partenaires publics qui souhaitent en avoir sur leur territoire.
Est-ce que dans le vidéo mapping, il y a des courants artistiques très différents et peut-être certaines vedettes d'une certaine manière, des artistes qui ont quelque chose à exprimer un peu différemment des autres ?
Alors comme dans tout secteur artistique, en effet, il y a une diversité d'artistes et d'approches pour le mapping. On a des formes plutôt figuratives, narratives, qui peuvent parler de l'histoire du bâtiment, de l'histoire du territoire, jusqu'à des écritures très abstraites. Donc il y a la même diversité qu'en cinéma. On a des... la création comme des choses marketing, comme on a du blockbuster, de l'RSC, on peut faire le parallèle avec d'autres secteurs. Après, on est sur un secteur assez jeune, donc on a des vedettes, entre guillemets, du secteur, mais qui ne sont pas identifiées du grand public. On a des artistes qui sont là depuis longtemps, qui ont des univers très particuliers, donc qui peuvent être identifiés un peu comme les stars du secteur, mais on n'a pas encore dans le secteur du cinéma ou de la musique où on peut faire venir finalement du public sur le nom d'un artiste.
Donc il y a bien sûr les images dans le vidéo mapping. On peut parler du son aussi, des créateurs sonores que on intègre, on va dire, non seulement au festival, mais aux créations.
En mapping, en effet, on est audiovisuel, donc il y a l'image et le son. Donc, bon, le son, souvent, parent pauvre, mais bah, il joue un rôle crucial dans le mapping. Hein, c'est 50% de la création. On le voit quand on a un mapping sans son, les émotions ne sont pas du tout les mêmes. Donc on a des approches assez différentes. Hein. On a des artistes qui font les deux, le son et image. On a des collectifs beaucoup qui travaillent ensemble pendant plusieurs années sur les binômes, sur l'image et son ensemble. Et puis après on a des rencontres qui se font au fil des projets où tel artiste visuel mapping va avoir envie de telle touche et va aller chercher tel musicien ou tel sound designer. Et nous, dans notre travail aussi de constitution des équipes artistiques, et notamment à travers nos systèmes de résidence, on aime bien faire se rencontrer artistes sonores et artistes visuels.
Donc ces personnes qui viendront à Lille, enfin je dis Lille, ça peut être dans des villes proches, pour travailler ensemble, réfléchir à l'évolution du vidéomapping, elles viennent d'un peu partout dans le monde ?
Alors les artistes qu'on programme sur le Video Mapping Festival, on a des gens qui viennent de partout dans le monde, mais on a quand même un focus particulier sur les artistes régionaux. Parce que pour nous, le festival, c'est aussi un outil pour structurer localement la filière mapping. Donc on a une espèce de priorité sur... Donc il y a un pourcentage important de créations qui sont faites par des artistes locaux. Mais on va chercher après des artistes un peu partout dans le monde pour la spécificité de leur écriture, leur univers visuel...
Alors, il y a des endroits à découvrir au travers du mapping. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas, par exemple, la banque, c'est un lieu intéressant à Béthune.
Oui, le festival, c'est en effet l'occasion de découvrir déjà sa région. On peut se balader sur les différentes dates du festival et aller découvrir des villes où on n'a peut-être pas forcément mis les pieds. Et puis le mapping va mettre en lumière, au sens propre et figuré, des bâtiments de notre patrimoine. Donc des fois des choses qui ne sont pas forcément identifiées, mais qui ont un intérêt architectural ou historique.
Alors, je pensais à la banque parce qu'ils ont déjà présenté un travail sur la lumière qui était vraiment impressionnant. Et donc voilà, ça me revient à l'esprit. Donc chaque lieu, au travers des visites, des spectateurs, peut donner, dans l'esprit de ces personnes... une impression qui persiste, c'est la persistance lumineuse.
Oui, on se rend compte qu'on a pas mal d'échanges avec des publics qui nous disent finalement, depuis qu'il y a eu un mapping sur ce bâtiment de ma ville, je ne le vois plus de la même façon, je l'ai redécouvert, et maintenant quand je passe, finalement j'ai l'impression de revivre un peu, il y a un lien qui s'est créé avec le bâtiment, et je revis un petit peu de l'émotion que j'ai vécue pendant le mapping. Donc le mapping finalement c'est aussi une façon de se réapproprier son cadre de vie et son patrimoine.
Alors, j'ai eu l'occasion de visiter une ville qu'on connaît sous le nom de Canton, Guangzhou, le jour et la nuit. Et la nuit, tout est très différent parce que la lumière s'installe et crée un nouvel espace lumineux à la place des bâtiments qui peuvent paraître d'une grande banalité. Et la nuit, ça prend une dimension incroyable grâce à cette lumière.
Alors moi, je ne l'ai pas visité, donc je ne sais pas. Je ne sais pas si en effet ce que ça donne à Canton. Mais oui, évidemment, la lumière, elle remodèle la ville et notre environnement. Donc elle a un rôle important sur la perception de l'espace et les sensations qu'on peut avoir en déambulant dans l'espace public.
Alors c'est vrai qu'à Canton, on pourrait dire aussi Hong Kong, hein, on a ces lumières incroyables. Il y a aussi maintenant du mapping qui se fait là-bas et vous êtes aller plusieurs fois en Chine.
Donc on a pu faire des créations mapping en Chine comme dans pas mal d'autres pays. En effet, dans nos échanges internationaux, on a accueilli des artistes chinois. Sur le festival, on a proposé des créations d'artistes chinois et on a été invité en Chine par des festivals ou des institutions. On a fait par exemple la piscine olympique de Pékin. On a refait un mapping là-bas pendant les JO de Paris, si vous voulez faire un clin d'œil. On a fait le festival de Shanghai. Donc on a des interactions en effet avec des partenaires en Chine. Ouais.
Est-ce qu'il y a du matériel là-bas qui est d'un niveau intéressant ou est-ce qu'il est partout pareil en Europe et en Chine ou ailleurs?
Pour faire du mapping, il faut des visioprojecteurs plus ou moins puissants avec plus ou moins tel type de focale. Bon, c'est du matériel qu'on peut trouver théoriquement partout dans le monde, mais qui en fait est assez coûteux et pas disponible partout. Donc en Chine, on en trouve sans problème, mais on a été amené à travailler dans des pays. Je sais pas, par exemple, on a fait un mapping en Birmanie, on a dû ramener le matériel de Singapour. On a fait un mapping en Mauritanie, on a dû le ramener de chez nous. Pareil, même dans des pays comme le Maroc, c'est du matériel qu'on ne trouve pas forcément, qu'on a dû ramener de France.
Voilà, donc il y a toutes ces contraintes techniques, il y a aussi humainement, comment, quand vous arrivez quelque part, vous êtes ressenti comme un quelqu'un qui va amener du rêve ou comment ça se passe?
Quand on est accueilli dans une ville, en effet, les choses ne sont pas les mêmes quand on a un public qui connaît déjà le mapping ou qui ne le connaît pas. C'est vrai qu'il y a quelque chose de magique quand on découvre pour la première fois un mapping. J'ai un souvenir très fort de notre premier mapping qu'on a fait en Birmanie en 2017. Un public qui n'avait jamais vu de mapping. Et donc on a mappé l'hôtel de ville de Rangoon, donc un très gros bâtiment, une très grosse place. Je pense qu'il y avait entre 30 et 40 000 personnes sur la place. C'était vraiment noir de monde. Et quand les images sont parties, enfin, il y a un truc qui s'est senti dans la foule qui était vraiment très fort. Donc c'est vrai qu'on, ça fait plaisir de ramener cette magie auprès du public.
Ça fait quoi après de revenir à Lille?
À Lille, la relation avec les publics n'est pas la même, mais c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on a un public qui est éduqué au mapping, qui voit du mapping depuis 10 ans. Donc il ne va pas réagir de la même façon sur un bâtiment qui s'écroule parce qu'il l'a vu 50 fois que quelqu'un qui voit pour la première fois un mapping. Mais justement, c'est intéressant parce que là, on a des vrais échanges de critiques sur les œuvres qui sont proposées. Donc c'est intéressant dans tous les cas, de toute façon, de faire se rencontrer des publics avertis ou pas avec des œuvres.
Donc cette année 2026, un sacré parcours à Lille qui est présenté. Hein. Donc on peut peut-être décrire les grands éléments.
Oui, donc 10 et 11 avril, parcours dans Lille cette année. Donc un parcours qui va être à cheval centre-ville et Vieux-Lille. On va retrouver notamment la Voie du Nord, la Treille qu'on avait l'année dernière. On retrouve l'Opéra. On avait fait une pause depuis 2 ans pour la façade, mais on était à l'intérieur. Donc cette année, on retrouve la façade de l'Opéra. Pour la première fois, on va mapper la tour du tribunal, du palais de justice. On va faire également un bâtiment, le restaurant Les Petits Poissons dans le Vieux-Lille, un bâtiment métallique assez intéressant. On va faire le Café de Paris. On aura une performance danse et mapping sur la place Louise de Bettigny. Et on aura aussi des propositions en intérieur. Donc on va pouvoir rentrer dans l'IAE pour cette grande cour avec donc, du mapping immersif. On va rentrer dans Sainte-Marie-Madeleine avec un parcours de micro-mapping au sein de l'église. Et on rentrera dans le Palais des Beaux-Arts, dans l'Atrium, où on aura une performance piano en live avec un mapping immersif.
Voilà, Antoine Magnier, donc l'occasion de mettre en valeur des bâtiments, mais aussi d'amener une touche qui vous est personnelle et personnelle à chacun des artistes que vous mettez en œuvre.
Oui, ben on aime bien aller chercher des artistes qui ont des univers assez différents. Pour nous l'idée d'un parcours, c'est aussi de montrer la diversité des écritures. Donc il y a une diversité de supports. Déjà, on va choisir du bâtiment classique comme l'opéra ou brutaliste comme le tribunal. Donc voilà. Et on retrouve cette diversité aussi dans les œuvres. On va choisir des artistes qui ont des univers, des écritures assez différentes pour vivre vraiment un parcours où on voit plein de choses différentes, quoi.